Et le journal vous est présenté par Florence Turme. Bonsoir Florence.
Bonsoir et meilleurs vœux à toutes et tous. L'investiture de Jair Bolsonaro à la tête du Brésil, premier président d'extrême droite depuis la dictature militaire, il promet de renforcer ses liens avec Washington, changer de cap économique et lutter contre la corruption et la criminalité. Nous retrouverons notre envoyé spécial Olivier Poujade en direct de Brasilia. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un prêt à poursuivre les négociations sur le nucléaire mais sans relâcher la pression vis-à-vis des États-Unis. Quelles conséquences pour les relations diplomatiques en 2009, analyse notre correspondant à Séoul, Frédéric Ojardias. 2018, nouvelle année faste pour les ventes de voitures neuves en France. L'industrie automobile enregistre une hausse de 3% des immatriculations, mais le déclin du diesel se confirme, nous dira Marjorie Péjac. Artistes et écrivains, inconnus et sportifs de haut niveau, 402 personnes distinguées par la Légion d'honneur cette année en France. Parité exacte entre hommes et femmes et éclectisme toujours intact. Nous y reviendrons à la fin de ce journal avec Cécile de Kervas. Ce 1er janvier 2019 marquera incontestablement une rupture dans l'histoire du Brésil. Élu en octobre dernier avec 55% des suffrages, le président Jair Bolsonaro prend ses fonctions en ce moment même. Il devient ainsi le premier chef d'État d'extrême droite à accéder au pouvoir par les urnes, ce qui ravive les souvenirs de la dictature militaire pour laquelle il ne cache d'ailleurs pas sa nostalgie. Olivier Poujade, bonsoir. Vous êtes l'envoyé spécial de France Culture à Brasilia. La cérémonie officielle va débuter d'un instant à l'autre et depuis ce matin, les partisans de Jair Bolsonaro affluent vers l'esplanade des ministères où vous vous trouvez, Olivier.
Ouais, le nouveau président brésilien est sur le point d'entrer au Congrès, dans les deux immenses tours symétriques qui viennent ponctuer la longue esplanade des ministères. Jair Bolsonaro y prononcera les premiers mots de son mandat, un discours qui sera a priori assez court. Franc et direct, c'est ce qu'a révélé dans la journée l'un de ses conseillers, dans la lignée en fait de ses sorties habituelles. Mais le nouveau président d'extrême droite va sans doute devoir assouplir son style et sortir de cette rhétorique populiste, agressive, clivante. Il va devoir composer notamment avec les députés et les sénateurs face auxquels il va se retrouver dans quelques minutes pour gouverner. Ils n'ont pas ou peu été consultés pour la formation de son gouvernement. C'est une première rupture avec la tradition. Le candidat anti-système Bolsonaro s'est appuyé sur des segments très précis de la société pour débuter son mandat, les militaires, les lobbies évangéliques, des proches et certaines personnes de la société civile, mais il n'échappera pas à l'obligation de trouver des consensus avec les membres du Congrès. Et les premiers mots qu'il prononcera auront évidemment beaucoup d'importance.
Olivier Poujade avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Cette cérémonie d'investiture se déroule par ailleurs sous haute surveillance. Un important dispositif impliquant l'armée brésilienne a été déployé dans la capitale. Même les parapluies sont interdits pour des raisons de sécurité. Le discours radical ultra-conservateur du chef de l'État lui a valu d'être victime d'un attentat au couteau pendant la campagne. Mais c'est bien en multipliant les armes sur son territoire que Jair Bolsonaro compte régler le gigantesque problème de violence, Olivier Poujade.
C'est l'une de ses dernières annonces avant son investiture et probablement l'une de ses premières mesures en tant que président. Jair Bolsonaro prévoit de faciliter par décret la possession d'armes pour les citoyens brésiliens, même si 61% des Brésiliens y sont opposés. Adriana ne fait pas partie de cette majorité. Elle est venue applaudir son nouveau président avec ses deux petites filles. Elle n'attend qu'une chose, pouvoir s'acheter une arme à feu.
Bien sûr, dès qu'il libéralise, je fonce m'acheter mon pistolet Glock. Oui, vraiment. Il faut en avoir un. Il n'y a que les bandits qui ont des armes. Et les bons citoyens n'en ont pas. Bien sûr qu'il m'en faut un.
C'est aussi l'avis de Claudio.
Salut mon pote.
Mais ce policier militaire estime que le débat est sensible.
Je pense que posséder une arme à la maison pour défendre sa famille, cela fait partie des droits du citoyen. Mais le vrai débat ici concerne le port d'armes. C'est différent. Parce que tout le monde peut sortir dans la rue pour tuer tout le monde.
Le port d'armes, Claudio n'y est pas favorable. Bolsonaro, lui, estime que pour y parvenir, il sera obligé de consulter le Congrès brésilien.
L'attaque au couteau qui a blessé 3 personnes le soir du Nouvel An à Manchester fait l'objet d'une enquête terroriste, indiquent les autorités britanniques sans pour le moment davantage de précision. Un homme et une femme d'une 50aine d'années ont été grièvement blessés, un policier plus légèrement à l'épaule et la gare de Victoria où a eu lieu l'agression est restée fermée durant plusieurs heures. L'assaillant, maîtrisé et interpellé sur les lieux, a été placé en garde à vue. À Berlin, un automobiliste a blessé 4 personnes, dont des Syriens et des Afghans, en fonçant avec sa voiture sur un groupe de piétons qui attendait l'autobus. Une attaque a priori délibérée et animée de sentiments xénophobes. L'individu aurait tenu des propos racistes, mais la police le présente par ailleurs comme un déséquilibré. Les connexions Internet restent coupées en République démocratique du Congo et ce pour le 2e jour consécutif sans que l'on sache le temps que va durer cette coupure qui intervient au lendemain du scrutin présidentiel de dimanche. Chacun des 2 principaux candidats à la succession de Joseph Kabila revendique la victoire. La fréquence de Radio France Internationale a également été suspendue dans la capitale Kinshasa et la tension n'en finit pas de grandir dans le pays, Anthony Fouchard.
Les Congolais se sont réveillés lundi avec un drôle de sentiment, celui d'avoir, enfin, après 2 ans et 1 semaine d'attente, la chance de pouvoir changer les choses en glissant un bulletin dans l'urne. L'excitation et l'impatience auront rapidement laissé place à l'inquiétude. Lundi, en fin de matinée, les réseaux sociaux sont inaccessibles. Rapidement, c'est tout Internet qui tombe, puis les SMS sur l'ensemble du territoire. Un opérateur de téléphonie confie que l'ordre est venu de tout en haut, dit-il. D'abord, on filtrait simplement les images, les vidéos sur Twitter ou Facebook, puis on nous a demandé de tout couper. Les 3 opérateurs du pays sont hors réseau, le signal de Radio France Internationale est brouillé. Ce matin, les chancelleries occidentales renouvelaient leur appel au calme et demandaient au gouvernement de ne pas bloquer les médias et l'Internet. L'ambassadeur des États-Unis est même allé plus loin dans ses vœux du Nouvel An, en souhaitant aux Congolais une transition démocratique, je le cite. Et ici, chaque mot compte, les diplomates le savent. Kinshasa n'a pas hésité à renvoyer l'ambassadeur de l'Union européenne en fin de semaine dernière. Quant à la compilation des résultats, les observateurs ne peuvent pas y accéder. La commission électorale pourrait annoncer les premières tendances d'ici mercredi.
Anthony Fouchard de Radio France Internationale pour France Culture. Situation toujours très tendue également au Soudan où plusieurs partis de l'opposition comptent demander demain au président Omar El-Béchir de dissoudre le gouvernement et d'organiser des élections. Hier, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des centaines de manifestants qui marchaient sur le palais présidentiel. Le pays subit depuis des années une crise économique profonde et la colère de la population s'est accentuée ces dernières semaines en raison de la pénurie de certaines denrées de base et de l'augmentation du prix du pain. Direction maintenant la Corée du Nord. À l'heure des vœux à l'échelle internationale, je vous propose de nous tourner vers ce pays dont le dirigeant Kim Jong-un s'est déclaré ce matin prêt à continuer les négociations de dénucléarisation et à rencontrer de nouveau le président américain Donald Trump. Mais il a aussi menacé de chercher des alternatives, ce sont ses termes, si Washington persistait à maintenir sanctions et pressions visant son régime. Une nouvelle déclaration nord-coréenne est l'occasion aussi de dresser le bilan d'une année 2018 marqué par la reprise du dialogue et plusieurs avancées tangibles sur la péninsule, mais une détente qui reste fragile. Frédéric Ojardias, vous êtes notre correspondant à Séoul. Tout d'abord, quel bilan tire la Corée du Sud de l'année 2018 ?
Eh bien, un bilan globalement positif 2018 a été placé sous le signe du dialogue. Les dirigeants sud et nord-coréens, Moon Jae-in et Kim Jong-un, se sont rencontrés à 3 reprises en moins de 6 mois, ce qui est sans précédent. Et pour la première fois de leur histoire, États-Unis et Corée du Nord ont aussi organisé un sommet. L'année écoulée a aussi été marquée par des symboles très forts, comme ce défilé conjoint des athlètes des deux Corées lors des Jeux Olympiques d'hiver au Sud, où ces sourires, ces embrassades, cette proximité affichée entre Moon Jae-in et Kim Jong-un. Pour la première fois, un dirigeant nordiste a mis le pied du côté sud de la frontière, c'était en avril, et un président sudiste a donné un discours devant une foule de 150 000 Nord-Coréens à Pyongyang en septembre. 2018 a été une année sans essais nucléaires ou balistiques. Les deux Corées ont enfin entrepris des mesures de réduction des tensions militaires. Elles ont notamment détruit des postes de garde et déminé des zones situées sur la frontière ultra-militarisée qui les sépare.
L'année 2018 a été aussi marquée par un changement de l'image de Kim Jong-un en Corée du Sud.
Tout à fait, la détente a permis à Kim Jong-un de se donner une stature d'homme d'État, responsable et respectable. Et au Sud, son image s'est beaucoup améliorée. On l'a vu à travers des exemples étonnants, comme cette marque sud-coréenne de produits cosmétiques qui a utilisé l'image de Kim pour vendre des masques pour la peau, ou ses jouets en 3D à l'effigie du dirigeant nord-coréen. Début décembre, le directeur d'une association pro-Kim, appelé Comité de Bienvenue pour le Grand Homme, a fait scandale quand il a déclaré sur les ondes de la télévision publique sud-coréenne qu'il appréciait, je cite, « l'attitude humble et les réussites économiques de Kim Jong-un ». Toutes ces affaires ont soulevé de nombreuses critiques ici, des Sud-Coréens plus conservateurs qui ont rappelé que le dirigeant nordiste restait un dictateur, accusé entre autres d'enfermer des dizaines de milliers de Nord-Coréens dans des camps ou d'avoir fait assassiner son demi-frère. Mais Kim Jong-un continue à polir son image à l'intention de sa population comme du monde extérieur. On l'a encore vu aujourd'hui dans sa déclaration de Nouvel An, où il est pour la première fois apparu dans une bibliothèque assis sur un fauteuil en cuir. Cela ressemblait presque à une discussion agréable au coin du feu.
Un changement d'image certes, mais sur la question qui fâche, celle précisément de la dénucléarisation, les avancées de 2018 restent bien maigres.
Oui, cela reste le cœur du problème, car le Nord n'a probablement aucune véritable intention de renoncer au nucléaire. Alors certes, les essais ont cessé, mais Pyongyang continue sans doute sa production d'armes, même si Kim Jong-un affirme le contraire aujourd'hui. Le régime a aussi rappelé début décembre qu'une dénucléarisation de la péninsule, comme il s'y est engagé en 2018, signifie que Washington aussi devrait éloigner ses armes nucléaires de la région, et notamment de Corée du Sud. Les États-Unis, eux, se montrent très intransigeant, il refuse toute levée, même partielle, des sanctions sans vraie dénucléarisation. Or, tant que les sanctions sont en place, la Corée du Sud se voit interdite de mettre en œuvre tous ses ambitieux projets de coopération et de réconciliation avec le Nord.
La diplomatie fait donc face à un mur. À quoi faut-il s'attendre en 2019 ?
Eh bien, un deuxième sommet entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump est attendu en début d'année, mais rien ne dit que ce sommet permettra des avancées plus concrètes que celui de 2018. Kim Jong-un est aussi attendu cette année à Séoul, la capitale sud-coréenne, mais encore une fois, si cette visite sera extraordinaire, elle ne suffira pas à elle seule à débloquer les négociations de dénucléarisation. En matière de relations intercoréennes, la Corée du Sud a réussi à prendre l'initiative en 2018. Cependant, Séoul doit veiller à ne pas s'aliéner son allié américain qui s'inquiète de voir ce rapprochement Nord-Sud aller plus vite que les progrès sur la dénucléarisation. Quant à la Corée du Nord, elle demande un allègement des sanctions pour permettre à son économie de se développer. Kim Jong-un a encore évoqué ce sujet aujourd'hui. Si la situation reste coincée, Pyongyang pourrait s'impatienter et avoir de nouveau recours à des provocations nucléaires ou balistiques. Un retour des tensions n'est donc pas à exclure en 2019.
Merci à vous Frédéric Ojardias. Un coup de théâtre politique au sein de l'opposition de centre-gauche en Israël. L'alliance entre le leader du parti travailliste Avi Gabe et la chef de l'opposition, Tzipi Livni, a volé en éclats. Tzipi Livni, l'une des principales figures de la vie politique israélienne, se retrouve mise à l'écart à quelques mois des élections législatives du 9 avril prochain. En France, les festivités du Nouvel An se sont déroulées sans accroc majeur à Paris, où les autorités avaient déployé plus de 12 000 hommes pour assurer la sécurité du réveillon après des semaines de manifestations sociales des Gilets jaunes. En revanche, la nuit du Nouvel An aura été marquée par des incidents à Nantes, où un centre socio-culturel a été incendié, ainsi qu'une boucherie halal. Les forces de l'ordre ont également essuyé des jets de projectiles dans plusieurs quartiers de la ville. On note aussi plusieurs dizaines de voitures incendiées dans l'agglomération bordelaise, où 200 Gilets jaunes ont été évacués, mais sans aucun débordement par la police sur le pont d'Aquitaine. Le marché automobile français affiche toujours une bonne santé en 2018 avec une quatrième année de hausse des ventes consécutives. Près de 2 200 000 véhicules neufs ont été vendus en France en 2018, soit 3% de plus qu'en 2017 malgré une forte chute en décembre. Marjorie Péjac, bonsoir.
Bonsoir.
À l'heure où l'on parle d'urgence pour préserver l'environnement, faire baisser la pollution, n'y a-t-il pas une certaine contradiction? Finalement, on achète davantage de voitures, Marjorie.
Alors oui, mais à noter quand même que l'on achète de moins en moins diesel. Sur 10 voitures neuves vendues en France, 4 sont au diesel. En 2012, c'était 7 sur 10. Ceci étant, les acheteurs ne se sont pas non plus rués sur des véhicules dits propres. Il y a toujours un gros engouement pour les SUV, ces voitures aux allures de 4x4. Quant aux ventes des véhicules électriques ou hybrides, elles augmentent, mais faiblement. Concernant les marques de voitures neuves achetées en France, ce sont les constructeurs français qui ont le plus la cote. PSA et Renault ont augmenté leurs ventes de près de 9% sur 2018, alors que les constructeurs étrangers ont subi un recul de 3,44%.
Alors, cette hausse des ventes de véhicules neufs en France, est-ce que cela va de pair avec des embauches ?
Non, en fait, il n'y a pas de lien. Les voitures neuves achetées en France sont essentiellement fabriquées à l'étranger. En revanche, on sait que l'effondrement du diesel va provoquer de la casse sur l'emploi en France. Actuellement, plus de 37 000 personnes travaillent dans la filière automobile liée au diesel. D'ici 10 ans environ, 10 000 à 15 000 postes seront menacés. Ce sont des chiffres avancés par l'Observatoire de la métallurgie qui a mené une étude. Parallèlement, il va aussi y avoir des créations d'emplois, notamment avec l'émergence du véhicule électrique connecté et autonome. 25 000 personnes devraient être embauchées chaque année en France, d'aujourd'hui à 2022. On peut alors se dire que ce qui sera perdu dans le diesel sera récupéré dans ce nouveau secteur d'avenir. Sauf que les compétences requises en intelligence artificielle, par exemple, ou encore en robotisation sont pointues. Et il ne sera pas forcément facile de recycler dans cette nouvelle filière ceux qui auront perdu leur emploi lié au diesel.
Merci Marjorie Péjac. Agression d'un surveillant à la maison centrale de Valence. Un détenu a jeté de l'huile bouillante sur lui. Il a blessé également l'un des 3 surveillants avec une lame de rasoir avant d'être maîtrisé et placé en quartier disciplinaire. 2 des gardiens ont été hospitalisés. Les syndicats dénoncent des actes de violence de plus en plus fréquents et une infrastructure qui, selon eux, ne permet pas de gérer ce genre d'individus ultra dangereux. 402 personnes distinguées pour la promotion du 1er janvier de la Légion d'honneur en France, une promotion qui se décline à parité égale homme-femme, avec, comme il se doit, l'éclectisme habituel entre personnalités de premier plan et inconnues du grand public. Les uns et les autres se retrouvent ainsi sur cette même liste où s'inscrivent les noms du romancier Michel Houellebecq et ceux des joueurs de l'équipe de France de football qui ont remporté la Coupe du Monde, Cécile de Kervas-Douay.
Oui, et cet éclectisme que vous pointez est sans doute lié à la réforme de 2007 de la Légion d'honneur. D'abord parce qu'elle instaure, vous l'avez dit, la parité homme-femme, tout comme aussi la possibilité de promouvoir le bénévolat associatif. Ensuite, parce que jusque-là, c'était les différents ministères qui proposaient une liste de personnalités à décorer. Mais depuis 2007, tout Français peut aussi proposer une personne dont il estime qu'elle a fait preuve de mérite éminent au service de la nation, et ce, pendant minimum 20 ans. Il faudra pour cela réunir 50 signatures de citoyens majeurs. C'est ainsi que, parmi les promus cette année, on trouve d'anciens résistants et déportés, des hauts fonctionnaires, des maires, députés, sénateurs, d'anciens ministres comme Xavier Darcos ou Marisol Touraine, beaucoup de responsables associatifs, mais également des personnalités de tous milieux professionnels, des femmes et hommes d'affaires, par exemple, comme Agathe Bousquet, la présidente du groupe Publicis, des artisans comme le chocolatier Michel Belin, des meilleurs ouvriers de France, des médecins, des architectes, aux côtés d'universitaires et de chercheurs comme l'historienne et sinologue Marie-Claire Bergère. Sur la liste proposée cette année par le ministère de la Culture, on trouve aussi, vous l'avez dit, l'écrivain Michel Houellebecq, mais également Stéphane Bern, missionné par le ministère pour le loto du patrimoine, l'entrepreneur Frédéric Jousset, qui est chargé, lui, toujours par le ministère de la mise en place du Pass Culture, et puis les comédiennes Nathalie Baye, Michel Larocque, Ludmila Michael et la chef d'orchestre Nathalie Stutzmann. Cette année, le président a également promu, à titre exceptionnel, parce qu'il n'atteigne pas les 20 ans d'activité requis, l'équipe de France de football, mais également un jeune étudiant lyonnais, Marin Sauvageon, qui avait été sauvagement tabassé, c'était il y a 2 ans, en défendant un couple qui s'embrassait dans la rue. Sa mère avait demandé et donc obtenu cette distinction pour service exceptionnel nettement caractérisé. Depuis sa création sous Napoléon, la Légion d'honneur n'a pas été refusée par de nombreuses personnalités, mais on peut noter tout de même le refus de Maurice Ravel, Georges Brassens, Pierre et Marie Curie, Georges Sand, Jean-Paul Sartre, Brigitte Bardot et plus récemment l'économiste Thomas Piketty, qui estimait que ce n'était pas le rôle d'un gouvernement de décider qui est honorable ou non.
Merci Cécile de Kervas-Douay. Pour terminer ce journal, un regard qui nous emmène loin, très loin dans le ciel, avec cette double victoire pour l'agence spatiale américaine, puisque la sonde New Horizon a survécu à ce survol historique. Loïc Loury.
L'ancien guitariste de Queen, également docteur en astrophysique, avait composé un morceau pour l'occasion. La sonde New Horizons, qui porte très bien son nom, a survécu au survol d'un objet céleste situé à 6 milliards 400 millions de kilomètres. Ultima Thule, découvert en 2014, se trouve dans la ceinture de Kuiper, une région de l'espace qui débute au-delà de Neptune, dernière planète connue du système solaire. Le caillou en question fait 20 à 30 kilomètres de diamètre. Il est tellement glacé qu'il a conservé sa forme d'origine, celle qu'il avait au moment de la formation du système solaire. C'est tout l'enjeu de cette opération inédite. Une première image, plutôt floue, est arrivée sur Terre dans la nuit. Ultima Thule serait allongé plutôt que rond, mais la NASA attend désormais beaucoup mieux. La sonde devait prendre 900 images en quelques secondes à peine. La manœuvre à cette distance était compliquée. New Horizons filait à 50 000 km/h. Mission donc accomplie, annonce ce soir la NASA, qui attend désormais les précieuses images. Il y a 50 ans, des hommes orbitaient pour la première fois autour de la Lune. Ultima Thule est située 17 000 fois plus loin.
Un temps variable et plus changeant que les jours précédents, nous promet Météo France pour demain, avec des éclaircies sur les Pyrénées, le golfe du Lion, la région Alpes-Côte d'Azur. Température minimale entre 2 et 8 degrés jusqu'à 15 l'après-midi. C'est la fin de ce journal préparé avec Jean-François Braun.